Et si au départ l'engagisme se fait sur la base du volontariat, la pratique finit par se rapprocher de la traite et de l'esclavage.
Identitaise.
Identitaise.
Identitaise. Le podcast qui aborde
la complexité de l'identité antillaise.
Merci de nous retrouver pour ce cinquième épisode d'Identitaise. Je suis Adeline et je suis toujours accompagnée de mes deux amis Michel.
Allô tout le monde.
Et Jordi.
Allô tout le monde.
Alors on espère que le dernier épisode vous a plu. On se posait quand même beaucoup de questions sur cette période post-esclavagiste. Et du coup, aujourd'hui, on va plonger sur ce qu'on a appelé l'engagisme. Et c'est donc cette période où, en fait, il a commencé à avoir de la migration aux Antilles, en fait, où on a commencé à faire venir des travailleurs d'autres pays, et notamment d'Inde, donc au sein des Antilles françaises, Martinique et Guadeloupe, mais pas que. Je dirais même au sein de la Caraïbe, dans son ensemble, puisque y a plein d'autres îles aux alentours, des îles voisines, où il y a aussi des descendants de ces travailleurs indiens. Et aujourd'hui, en fait, on voulait vraiment parler, évidemment, on va retracer historiquement, Michel va nous donner quelques dates, puisque si vous ne le savez pas, elle a écrit deux très beaux articles sur la communauté indo-guadeloupéenne sur son blog identitécaraïbes.org. Oui. Donc elle va un petit peu nous décrire au niveau historique quand est-ce qu'ils ont commencé à arriver, la migration, etc. Mais aussi on veut vraiment se pencher sur le côté de l'identité, hein, c'est le but de ce podcast, mais plus vraiment sur ce côté de ségrégation, puisqu'il y a eu comme un... pas un mouvement, mais je dirais, il y a commencé à avoir de la ségrégation envers cette communauté venue d'ailleurs, mais en même temps, étant donné qu'ils étaient indiens, et notamment au niveau des cheveux, ils n'avaient pas les cheveux crépus. Donc, il y a eu comme des choses paradoxales qui sont mises en place, c'est-à-dire qu'on méprisait les Indiens, mais en même temps, on aimait quand même être mélangé avec eux du fait de leurs cheveux qui n'étaient pas crépus. Donc ça, on va en parler plus en détail pour que vous compreniez. Là, je lance ça juste comme ça. Mais on va vraiment plus parler aussi de l'aspect de se mélanger, parce que on trouve aussi qu'il y a comme une image assez faussée des Antilles, à savoir les Antilles, une terre de mélange, un mélange de couleurs, comme dit Yannick Noah. Je suis métisse, un mélange de couleurs, mais derrière cette image qui paraît super belle, arc-en-ciel, etc., en fait, il y a tout un tas de ségrégation, il y a tout un tas d'injustice, on pourrait dire, et en fait, finalement, il y a de la xénophobie aux Antilles, et on n'en parle pas tant que ça. Donc, je vais laisser la parole à Michel.
Merci beaucoup, Adeline, pour cette petite introduction. Alors, pour donner un peu le contexte, comment j'ai fait pour arriver à écrire sur la communauté indo-guadeloupéenne, c'était suite à la polémique qui avait lieu en 2020 où Maxette Pierre Bacas, donc, qui est originaire donc, de cette communauté et qui a aussi des origines africaines, selon ses dires, qui avait voté contre le vote d'une loi reconnaissant la traite négrière ou l'esclavage au niveau de l'Union européenne. Je vous invite à consulter vraiment l'article en entier sur mon blog. Et donc, à partir de là, je me suis demandé, mais ok, je vois qu'il y a énormément de polémiques par rapport à ça. Elle a même fait une vidéo pour s'expliquer par rapport à son vote. Mmh. Et en fait, c'est là que je me suis dit, ce serait intéressant vraiment de s'attarder sur la communauté indo-guadeloupéenne étant donné que moi, j'avais entendu ici et là des bribes pour savoir comment la population indienne a fait pour arriver aux Antilles, quelles étaient les conditions, toute l'historique. Mm-hmm. Et donc de là, je commence à faire mes recherches et c'est vrai que je tombe vraiment dénue parce que encore une fois, c'est quelque chose qu'on ne nous a pas enseigné à l'école. Donc c'est vraiment encore une fois mes recherches personnelles qui m'ont permis en fait de créer cette petite série de deux articles qui reprennent un peu l'historique et ensuite on va dire les débuts de l'immigration indienne en Guadeloupe, qui est mon cas d'étude, mais c'est aussi le cas pour la Martinique, pour Trinité et Tobago. Et à ce moment-là, je me rends compte vraiment que il y a vraiment un travail de conscientisation et de valorisation de cette partie de l'histoire des Antilles françaises à valoriser, quoi. Et donc, en gros, je vais chercher ce qu'on entend déjà par travail colonial engagisme, parce que ce sont des notions que je ne connaissais pas. Donc, je vais bien entendu chercher sur la page Wikipédia. Bon, je sais qu'en tant que doctorante, on nous demande de ne pas aller sur Wikipédia. Mais bon, je vais avoir une vision bien concrète de la chose. Et en gros, on dit que c'est une forme atténuée de servage qui a pallié le manque de main-d'œuvre après l'abolition de l'esclavage en France en 1848. Mmh. Il y a d'autres systèmes qui ont existé sous d'autres noms ailleurs dans le monde. Et si au départ l'engagisme se fait sur la base du volontariat, la pratique finit par se rapprocher de la traite et de l'esclavage. Mmh. Donc je me dis déjà, on a déjà un petit aperçu de ce que moi, de mon côté, au fil de mes recherches, je vais découvrir. Donc en gros, l'engagisme, c'est en fait de combler le manque de main-d'œuvre qui a été perdu à la suite de l'abolition de l'esclavage et aussi d'éviter les pertes économiques, notamment dans le domaine de la grande culture, c'est-à-dire le domaine de la canne à sucre. Le 24 décembre 1854, vous avez une première... des Indiens qui arrivent donc sur le bateau qui s'appelle, enfin un navire qui s'appelle l'Aurélie, et donc qui arrivent en Guadeloupe et qui vont commencer à être répartis sur l'ensemble de l'archipel guadeloupéen. D'ailleurs, j'ai fait dans l'article la première partie un tableau qui montre un peu les répartitions indépendamment au niveau de la Grande Terre, Basse-Terre, où est-ce qu'on risque de retrouver le plus d'Indiens, notamment la Désirade, il y en a quasiment pas pour des raisons liées aux conditions climatiques et autres. Donc, on va vraiment valoriser justement les régions où on sait qu'on va pratiquer la grande culture, donc canne à sucre. Et à ce moment-là, entre-temps, le 1er juillet 1861, il y a une convention internationale qui est signée notamment avec la France et l'Angleterre qui leur donne l'autorisation de recruter massivement des Indiens, donc pour combler ce manque de main-d'œuvre. Donc à ce moment-là, vous avez des personnalités qui vont se rendre sur place pour recruter, je dis bien recruter entre guillemets, les Indiens. Mais en fait, il y a un auteur que je cite d'ailleurs dans l'article qui dit que ce n'est pas un simple recrutement, c'est ça, c'est littéralement un racolage en fait. On va essayer d'amadouer la personne pour dire oui, vous allez avoir un salaire digne de ce nom, avec des conditions de travail optimum. Vous n'êtes pas obligé de faire des tâches extraordinaires, etc. Donc, on leur vend du rêve, littéralement, et on leur présente les Antilles comme étant l'Eldorado.
Ça rappelle quelque chose.
Oui. Et donc, à partir de là, vous avez énormément d'Indiens qui finissent par dire « bon ben, j'accepte », sachant qu'ils vont chercher ces personnes-là dans des régions où la situation économique est déjà fragile et donc les gens n'ont pas d'autre choix que, je dirais, d'accepter parce qu'ils ont besoin de nourrir leur famille, etc. Donc, ils arrivent sur place, sauf que là, eh ben, c'est une grosse déception. À ce moment-là, déjà, les conditions de voyage ont été très difficiles. Hein, donc, je donne vraiment tous les détails dans la première partie. Conditions de voyage très difficiles. Et arriver sur place, c'est vraiment on est vraiment dans la situation d'esclavage, de servage. Donc, c'est travailler 9 heures par jour, 6 jours sur 7, des conditions de vie et d'hygiène déplorables. Enfin, voilà, c'est vraiment une situation inhumaine que peu d'entre nous connaissons. Moi-même, je ne savais pas. Donc, pendant que je suis en train de décrire tout ça, je me dis, mais ce n'est pas possible. Comment j'ai fait pour passer à côté de cela? Et donc, à partir de là, étant donné qu'il y a cette différenciation qui est faite justement, et on va le voir au fur et à mesure, entre les Indiens et les Noirs, donc qui ont été récemment été affranchis, etc. Donc, il y a vraiment aussi une situation de discrimination qui va être mise en place, malheureusement. Il y a aussi la question de la citoyenneté. On en a parlé à l'épisode précédent. Vous avez Henri Sidan-Baron qui va faire un travail vraiment colossal pour vraiment permettre la reconnaissance de la communauté indo-guadeloupéenne pour qu'elle puisse obtenir aussi le statut de citoyen français, parce qu'ils avaient avant le statut de sous-citoyen. C'est vraiment pour souligner vraiment le manque de comment je pourrais vous dire ça, le manque d'humanité. Vraiment, on traitait ces gens-là comme des moins que rien. Et donc, il va faire un travail colossal pour vraiment arriver à ce qu'on puisse finir par reconnaître quelques années plus tard les Indiens en Guadeloupe comme étant des citoyens français. Mais c'est sûr qu'entre-temps, il y aura la question de la xénophobie qui va apparaître entre les Noirs et les Indiens, des noms comme coulis, etc., etc., qui vont faire leur apparition. D'ailleurs, ce n'est pas qu'en Guadeloupe ou en Martinique qu'on voit ça. C'est aussi des termes qui ont été utilisés à Trinité-et-Tobago et ailleurs. Et donc, malheureusement, qui ont façonné aussi la culture chez nous aux Antilles et dans la Caraïbe. Et en fait, donc, je termine par cela, donc, pour vraiment après montrer qu'au fur et à mesure, la situation commence à apaiser. Il est plus facile maintenant, justement, aussi de valoriser l'union entre Noirs et Indiens, parce que ça aussi, c'était très mal vu. Mmh. On préférait se marier entre Noirs et Blancs, mais pas entre Noirs et Indiens.
Wow.
Voilà, ce sont vraiment des exemples comme ça que j'ai pu piocher ici et là, et je me dis que vraiment, il y a vraiment quelque chose à en tirer là-dedans. Et donc, je termine l'article en démontrant que, ben, aujourd'hui, la communauté indo-guadeloupéenne est vraiment bien assise et bien intégrée au sein de la société guadeloupéenne, au point qu'elle a abandonné, les premiers arrivants ont abandonné la langue tamoule pour favoriser le créole. Donc, il y a aussi toute la question de la créolisation, mélange, etc. Et voilà, c'est comme ça que je termine ça. Et donc, je laisse ça un peu en discussion si vous voulez réagir. Mais c'est vraiment un thème qui mérite, selon moi, qu'on s'y attarde un peu plus, notamment pour les Antilles francophones. Parce que à Trinité-et-Tobago, je parle beaucoup de Trinité-et-Tobago, mais c'est vraiment... C'est là qu'on sait qu'on va retrouver la plus grosse communauté indienne. Ouais. On peut aussi regarder aussi au niveau de la Guyane britannique ou encore au niveau du Suriname.
Ouais.
Mais chez nous, je trouve qu'il y a encore ce manque de, pas d'implication, mais ce manque de transmission du savoir, de l'histoire de la Guadeloupe, parce que ça fait partie de notre histoire, mine de rien, l'histoire de la Guadeloupe ou de la Martinique. Et donc, pour vraiment comprendre un peu les enjeux, notamment les tensions raciales, mine de rien, qui sont encore présentes, même si c'est pas aussi fort et perceptible qu'auparavant, mais qui sont toujours là sur nos territoires.
Tu veux y aller, Jordi?
Ouais, mais merci. À chaque fois, on me laisse la parole en premier. Quel challenge. Mais merci, Michel, pour ce gros contexte historique-là que ben, moi non plus, je n'avais pas. Et puis, c'est vraiment... Encore une fois, je parlais de trous dans l'histoire parce que je trouve que c'est vraiment important de parler comme ça, puisque dans le sens où dans la recherche d'identité, là, à chaque fois, ben oui, il y a un trou, il y a un vide, on ne sait pas d'où ça vient, parce qu'il y a toute une histoire qui est non dite, ou pas racontée, ou qui on a l'impression que c'est elle a juste pas existé. Et puis je dis ça dans le sens où ben quand tout ce que tu viens de dire, moi j'étais pas du tout au courant. Moi on m'a juste dit oui, il y a des Indiens qui sont venus travailler suite à l'esclavage, et puis c'est tout, ça s'arrête là. Et en plus de ça, il y a très peu de façons de repérer le passage des Indiens, justement. Ben, je parle pour la Martinique. Et puis, si ce n'est pas justement par rapport aux personnes, justement, ben, qu'on voit qu'il y a le mélange, là, qu'on a parlé de Chapé-Couli, Couli manger chien. Donc, là, on voit à travers les personnes qu'il y a eu un mélange, justement, qui s'est fait avec cette population indienne-là. Mais sinon, je vais retrouver très peu de choses où je pourrais dire qu'il y a eu un passage d'Indiens en Martinique. Là, je sais pas. Pour moi, ben, c'est pour ça que je parle de vide, de trou, c'est parce qu'il y a vraiment une absence de représentation de la communauté indienne. Et puis, en termes de construction individuelle aussi pour une personne, ben, par exemple, on m'a aussi appelé Couli manger chien, ou bien ma mère aussi, ou bien ben, que j'étais le fils de ma mère qui est Couli manger chien, comme on disait. Mais je n'avais aucune représentation dans l'espace public où je pouvais m'identifier à justement cette étiquette qu'on pouvait nous coller dans ma famille. Mais oui, juste parce qu'il y a eu un mélange au niveau de ma grand-mère. Elle est issue d'un mélange afro-descendant et indien. Mais mis à part ça, je ne pouvais m'identifier à rien du tout. Donc, c'est encore une fois, là, il est difficile de pouvoir s'identifier ben, quand au final, il y a un vide qui est présent.
Tout à fait.
Mais tu vois, c'est drôle quand tu parles de trous dans l'histoire, etc., de manque de transmission aussi, parce que c'est pareil. Je pense aussi, alors en plus moi qui suis née et qui ai grandi en France hexagonale, cette histoire de la communauté indienne, j'en avais pas plus que ça conscience, dans le sens où, encore une fois... Et puis, de toute façon, comme c'est les adultes qui t'apprennent l'histoire et que, voilà, c'est eux qui sont censés avoir le savoir quand toi, tu es enfant. Donc, tu te bases sur ce qu'on te dit. Et pareil, ce qu'on te dit, c'est « Ah, mais oui, il y a un mélange d'Indiens. Mais oui, la grand-mère de ta grand-mère, c'était en coulis. Et puis, la grand-mère de ton grand-père, il était blanc. Donc, c'est pour ça que t'es sorti comme ça, puis que t'as ce mélange-là. » Parce que c'est pareil, comme tu dis, Jordi, moi, c'est pareil dans ma famille. Oui, j'ai des cousines, par exemple, qui ont les cheveux bouclés, mais parce que leur mère est blanche. Tu vois, donc, tu sais, elles ont ce repère direct de « Ok, ma mère est blanche, mon père est noir, bon, bah, j'ai les cheveux bouclés, je suis métisse, voilà. » Mais moi, je sors noire, en plus, enfin voilà, j'ai vraiment pas le teint clair. Bon, j'ai pas le teint le plus foncé, mais j'ai pas le teint clair. Et je sors avec ces cheveux bouclés, et je sors en plus avec, comme je l'avais dit dans mon épisode de Noir et Femme, où ce teint entre guillemets rougeâtre, où je suis pas en train de nier que je suis noire, etc. Non, mes traits sont négroïdes, etc. Mais j'ai un teint quand même qui peut te faire croire, si moi je me lisse les cheveux, je peux passer pour une indienne, kind of, genre, je dis pas que voilà, mais voilà, je sais que quand j'avais tendance à me lisser les cheveux, je peux vraiment passer limite pour une métisse indienne, quoi. Mais pareil, c'est que t'as un manque d'identité par rapport à ça, parce que du coup, je sais pas d'où ça vient. Je sais pas d'où ça vient. Moi, j'arrive dans ma famille, ma mère est noire. Oui, mon père est clair de peau. Mais après, j'ai souvent plus été dans ma famille du côté de ma mère, et tout le monde est vraiment plus noir, tu vois, tout le monde est plus noir avec les cheveux plutôt crépus, etc. Donc, pour moi, il y a vraiment cette présence d'afro-descendance au sein de ma famille, mais en même temps, moi, je sais qu'il n'y a pas que ça. Que oui, évidemment, je suis afro-descendante, mais pas que. Et ce bout d'histoire, ben, je ne l'ai pas parce que ben, malheureusement, je n'ai pas grandi avec mon père. Dieu merci, voilà, les choses avancent plus dans ce cas-là, mais je ne vais pas exposer ma vie personnelle. mais tout ça pour dire que au moins, j'ai toujours quand même été en contact avec la famille de mon père, avec ma grand-mère, etc. Et je sais que ma grand-mère, clairement, quand on la voit, on sait que pareil, encore une fois, elle a des traits coulis quand même. Et c'est vraiment, il y a quelques mois, quand j'étais en Martinique et que j'ai vu ma grand-mère, j'ai eu vraiment une grosse discussion avec elle. Elle m'a un peu raconté son histoire, de comment elle a rencontré mon grand-père, etc. Et elle m'a parlé de sa mère. Elle m'a parlé de sa mère, de sa grand-mère, et elle m'a dit effectivement que sa grand-mère était vraiment indienne, quoi, qu'elle avait vraiment le teint indien, les cheveux, etc. Après, elle aussi, je pense qu'il y a un bout d'histoire qu'elle ne sait pas, parce que voilà, elle est née en 1935. Donc, les premiers Indiens qui sont arrivés, comme l'a dit Michel, c'était quand même plus aux alentours des années 1860-1870. Donc, il y a quand même un gros gap entre 1870, par exemple, et 1935. Et surtout que s'il n'y a pas de transmission qui se fait par rapport à l'histoire, par rapport à d'où tu viens. Mais ça m'a permis d'en savoir plus parce que au moins je comprends qui je suis, je comprends mieux parce que oui, on me dit ah mais oui, t'as du sang indien, t'as du sang couli, mais en même temps j'ai pas le fait, j'ai pas l'histoire, je sais pas quoi. Donc c'est comme si oui, physiquement je représente, mais en même temps j'ai pas cette histoire là et je trouve ça vraiment déplorable qu'on ait pas plus d'histoire là-dessus parce que les Indo-Guadeloupéens, les Indo-Martiniquais, les Indo-Caribéens font partie de l'histoire des Antilles, en fait. Ça fait partie de notre histoire. Et ce sont, aujourd'hui, ce sont des Antillais. Ils font partie de la population. C'est pas des gens à part ou quoi que ce soit. Et je trouve ça vraiment déplorable qu'on ait, par exemple, autant d'informations sur les béquets, les esclaves, tu sais, je veux dire, les descendants d'esclavagistes qui sont en hyper minorité. On parle de 1% de la population. Enfin, peu importe, parce que de toute façon, on n'a pas les statistiques ethniques, on le rappelle. Voilà, on sait très bien que ces gens-là sont en minorité, que ce soit en Guadeloupe, en Martinique. Mais je trouve ça vraiment déplorable qu'on ait autant d'informations sur eux. Et c'est fou, en fait, parce que ça retranscrit le fait que eux, ils se sont vraiment appliqués à tout faire pour transmettre un héritage culturel, mais aussi social et aussi évidemment économique, qui fait que on connaît leur nom, on connaît les habitations, et on sait que c'est des gens qui sont là depuis des 300 voire 400 années. On a vraiment ces informations-là, mais par contre, de savoir la personne qui a fait que moi je suis là aujourd'hui, enfin que et que j'ai ce mélange ethnique indien, etc. Ben je suis incapable de retracer cette histoire-là. Je suis incapable de retracer cette généalogie-là. Et je trouve ça vraiment triste. Et en plus, le pire, c'est qu'on a évoqué la xénophobie. Et alors ça, moi j'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre. Parce que j'ai vraiment du mal à comprendre comment est-ce que vous pouvez faire subir ça alors que vous-même, vous avez été réduit en esclavage juste à cause de votre couleur de peau, en fait, juste à cause de votre ethnie. Vous étiez réduit en esclave, vous étiez considéré comme des meubles. Vous n'aviez pas de statut de personne, d'individu. Et là, d'autres personnes arrivent d'un autre endroit et vous les traitez pas comme des esclaves, mais vous les traitez comme des moins que rien. Et donc, évidemment, je sais qu'il n'y a pas que les afro-descendants. Il y a aussi, j'imagine bien, les descendants de maîtres esclavagistes, donc les béquets, comme on a dit. Mais je me dis, comment est-ce qu'on a pu les persécuter alors que, en réalité, en plus, ils venaient remplacer les esclaves qui étaient nouvellement affranchis et qui ne se présentaient plus dans les champs, en fait. Donc c'est tout ça qui ça me perturbe, sincèrement, ça me perturbe.
Mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi, parce que quand je regarde un peu la deuxième partie là, de la série sur les Indo-Guadeloupéens, je le disais au départ, on a recruté ces gens-là vraiment dans des régions où la pauvreté faisait ravage, en fait. Mm-hmm. Et ils faisaient partie de la case des intouchables. Donc, non seulement tu as l'aspect économique, mais il y a aussi la comparaison physique qui est faite. Mm-hmm. On va toujours démontrer que l'Indien, il est faible, il est débile, etc. Il ne peut pas tenir sous la chaleur. Contrairement au noir, qui est robuste, qui est résistant, etc. Vraiment des comparaisons qui sont vraiment inutiles, mais qui intensifient justement les tensions raciales qui sont déjà perceptible au sein de la Caraïbe, mais entre communautés. Donc, ça n'arrange pas du tout le problème. Donc, c'est vrai que quand je regarde, il y a cet aspect-là qui est fait. C'est sûr qu'en privé, alors, c'est pas tout le monde qui va avoir ce même processus qui va différencier les Indiens des Noirs. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui auront beaucoup de respect du fait que ce sont des gens qui se donnent, etc. Et donc, comme je le disais aussi, qui ne vont pas se cacher à un moment donné de se mettre en couple avec les Indiens. Donc, ça, c'est quand même une bonne chose à retenir, mais il est clair que l'aspect économique et physique, malheureusement, sont à prendre en compte dans ces trucs-là.
Mais ça me fait penser, quand vous parlez des discriminations, le fait de rappeler sous des caractéristiques physiques, ah, mais les Indiens vont moins tenir la chaleur comparé à une personne noire, ils sont plus faibles. Et ça me laisse juste, par rapport à la même chose qu'on disait à l'épisode précédent, au final, que quand t'as connu que ça, et puis c'est le même système que tu cherches à répliquer, et puis surtout que quand dans le système, quand on parle de racisme, c'est parce que c'est un système hiérarchique basé sur la race, et puis on a mis le blanc dessus, et puis après tout ce qui est en dessous a moins de valeur, et puis on a surtout mis le noir en dernier. Donc si on sort de tous les concepts, et puis qu'on rate d'un point de vue, individuel ou bien à soi, même si on va toujours essayer de ne plus être le dernier, et puis là on va chercher à, ben là il y a des personnes étrangères qui sont venues, et puis on va dire que c'est eux, on va reprendre le même système qu'a fait l'homme blanc, et puis on va dénigrer de cette façon-là aussi pour nous aussi se donner un peu de valeur, puisque on nous a appris que la valeur se définissait par rapport à la race. Donc on va reprendre les mêmes schémas, les mêmes schémas, et puis on va appliquer ça à des personnes étrangères, et puis c'est vraiment, je trouve, déplorable, mais c'est pas non plus pour juger le comportement des Martiniquais ou des Guadeloupéens au moment de langagisme, comme on dit, mais c'est surtout, encore une fois, pour rappeler qu'on peut vite retomber dans des systèmes qu'on connaît, quand on parle de, quand on veut s'émanciper, il y a vraiment un réel travail de décolonisation à faire de l'esprit avant une vraie émancipation, puisque on va vite retomber dans des schémas qu'on a connus, et puis on va finir par opprimer des personnes comme nous on a connu, et puis on le voit déjà actuellement en Martinique, où on peut facilement voir dans les rues de Fort-de-France des tags sur les murs qui dit haïtien tueur de Martiniquais. Alors que ce sont les mêmes personnes, vous ressemblez, même histoire, et puis ça arrive, parce que ils sont pas sur la même île, mais on trouve une excuse, un bouc émissaire, et puis on dit que c'est eux, puis un peu comme nous a appris l'homme blanc, quoi.
Mais c'est intéressant que tu parles de ça, parce que justement, je trouve que les Martiniquais et les Guadeloupéens, on a cette image de gens qui ne veulent pas se mélanger. C'est-à-dire que, tu sais, on a vu la discussion, Jardy, toi et moi, que quand tu disais aux gens, mais Rihanna, elle est antillaise. Et les gens disaient, mais n'importe quoi, elle vient de la Barbade. Mais qu'on s'était dit, mais oui, mais la Barbade, c'est dans les Antilles, en fait. C'est juste que c'est pas les Antilles françaises, mais ça reste que c'est les Antilles. Et en fait, je pense aussi qu'il y a ce... c'est comme si on s'est approprié le mot Antilles, comme si c'était juste la Guadeloupe et la Martinique.
C'est vrai, ça. C'est vrai.
Puis, par exemple, on veut vraiment se détacher des Haïtiens, donc on va dire non, je suis antillaise, je suis pas haïtienne, je suis antillaise. Sauf qu'en vrai, ça veut rien dire. Genre, si tu dis pas je suis antillaise française, ça ne veut rien dire que tu dis je suis antillaise, je suis pas haïtienne, parce que les Haïtiens sont antillais. Oui. Haïti fait partie de la géographie antillaise, en fait, de l'arc antillais, en fait. Enfin, je veux dire, il suffit d'aller sur Google Maps pour voir ce que c'est que les grandes Antilles, les petites Antilles, enfin, voilà. Bref, mais donc, du coup, moi, je trouve que ça s'est beaucoup retranscrit dans le monde contemporain, en fait, dans l'époque actuelle, parce qu'on a tendance à vraiment vouloir se détacher. Et puis, encore une fois, je le cite, mais dans un podcast de Fanon que j'avais écouté, mais aussi dans des lectures aussi, il y avait cette notion des en fait, de comment les Français nous voyaient. C'est-à-dire que les premiers Antillais français, donc les premiers Guadeloupéens, Martiniquais qui débarquaient en métropole, tout de suite, en fait, quand ils parlaient ou soit quand ils donnaient leur nom, qui était un nom francisé en général. Et d'ailleurs, dans l'épisode de la citoyenneté, on a oublié de parler des noms. Bref, mais du coup, ils avaient en général cette remarque de « Ah, mais vous êtes comme nous, vous venez juste de là-bas, mais oh, vous, les Antillais, vous êtes comme nous, vous n'êtes pas comme les Africains, par exemple. » Et ça, on va en parler aussi, ça fera l'objet d'un de nos épisodes. Mais je voulais juste en parler brièvement parce que ça nous est resté collé à la peau très très longtemps. Et souvent, on a eu, en tout cas moi, je sais que j'ai eu des remarques de pourquoi les Antillais se croient supérieurs aux Africains. Pourquoi ils veulent absolument se différencier des Africains, etc. Donc aujourd'hui, ce n'est pas pour ouvrir le débat là-dessus, mais ça m'a fait penser à ça, Jordi, ce que tu disais, ce que tu évoquais, parce que on voit encore une fois que c'est des comportements qui nous suivent depuis genre 200 ans, quoi. Enfin, 200 ans, on n'est pas encore, mais je veux dire presque 200 ans, quoi. C'est des choses qui nous suivent depuis très longtemps et encore une fois, ça nous permet de comprendre pourquoi on en est arrivé là, pourquoi on est dans une telle situation. Mais c'est vrai, quand on dit « regarde d'où tu viens et tu vas savoir où tu vas » ou en tout cas où tu es, bah oui, plonger dans le passé, ça permet de savoir pourquoi on en est là aujourd'hui, pourquoi on est dans cette situation et pourquoi, par exemple, on se penche sur les complexes identitaires. Pourquoi il y a des complexes identitaires ? C'est parce que…
tout à fait.
Enfin, voilà, ça remonte à ces périodes-là et il y a vraiment un gros bagage historique, mais aussi traumatique, je dirais, derrière ça, en fait.
Oui,
mais je suis tout à fait d'accord. Et c'est sûr que quand tu regardes justement au niveau de la notion même de langagisme, ça te permet d'aller, de déployer, je dirais, des sous-thèmes, donc la notion de citoyenneté, la notion de culture avec l'indianité, l'indianité créole, la notion même de communauté, de communautarisme, parce que on le dit pas, mais il existe des communautés au sein de nos territoires et qui forcément ne se mélangent pas. Quand j'étais petite, je me rendais au Nord Grand et je me disais, mais il y a beaucoup d'Indiens, mais je ne comprends pas pourquoi je ne retrouve pas ces Indiens-là au niveau de ma commune, des abîmes, etc., etc. Mais c'est parce qu'on ne nous a pas appris ça. Donc, quand j'ai fait les recherches et donc j'ai regardé la répartition de la communauté indo-guadeloupéenne sur le territoire, c'est là que j'ai compris. J'ai dit, OK, donc on va retrouver ces gens-là, là, 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 là. Et donc, comme je disais, il y a ces notions-là. Et donc, ça me ramène aussi à me poser la question, mais pourquoi on ne voit pas, alors je ne sais pas si entre-temps il y a eu évolution, mais pourquoi dans les livres d'histoire, on ne parle pas suffisamment assez de cette période-là, langagisme. Ça fait quand même partie de l'histoire de France, mine de rien.
Tout à fait. Mais ça fait partie de l'histoire de France parce que ça a été permis par la colonisation française s'ils ont pu envoyer les Indiens aux Antilles parce qu'ils avaient colonisé l'Inde en Pondichéry.
Exactement.
Et puis ils ont pu aller dans cette ressource de main-d'œuvre-là et puis l'envoyer directement aux Antilles. Mais excuse-moi, Michel, je pense que tu es un peu coupé sur la fin, mais c'était.
C'était
pour dire ça, mais c'est pour rappeler aussi par rapport à ce que tu disais, Adeline, mais comment on a pu nous-mêmes reproduire ça, mais c'est la machine coloniale, c'est ça, c'est comment elle se met en exemple et puis elle te dit, mais c'est comme moi qu'il faut faire et puis c'est moi le plus valorisant. Donc, tends vers moi, va, rapproche-toi de mon comportement, fais comme moi et puis, comme tu dis, Michel, l'engagement, ça permet de développer plein de sous-chapitres et puis c'est des parties de l'histoire qui nous sont complètement obscurées. On les a pas du tout. On nous dit juste que c'est des Indiens qui sont venus pour remplacer la main d'œuvre et puis il y a pas plus de contenu derrière. Il y a pas plus quelque chose de concret. Et puis justement, ça fait partie de tout ça. Comment on fait oublier les choses aux gens? Comment on construit une population également aussi? Et puis comment on va mettre de côté des choses un peu plus négatives, justement, mais tout ça, en voulant faire ça, ben, ça fait juste nous perdre dans nos comportements. Je sais pas comment le dire mieux que ça, mais puis, ça. Puis on va refaire, ben, comme le seul exemple qu'on a, encore, je répète la même chose, mais c'est vraiment ça, c'est qu'il y a un seul exemple à suivre, et puis on vous fait oublier les choses un peu plus négatives, pour vous dire que la machine coloniale n'a pas eu beaucoup d'effets négatifs, mais oui, elle a des effets négatifs qui, ben, les personnes qui ont été colonisées, au final, elles deviennent, elles aussi, elles développent une haine envers l'étranger.
Mm-hmm. D'ailleurs, je vois qu'aussi la communauté indo-guadeloupéenne fait vraiment aussi le travail de dépasser les frontières, donc par exemple de rentrer en contact avec la communauté indo-trinidadienne et donc pour créer un réseau. Donc ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Et donc je vous parlais aussi de la notion d'indianité, qui est quand même, mine de rien, un élément supplémentaire dans toute la réflexion autour de l'identité antillaise. On ne le dit pas souvent, on parle beaucoup de créolité, afghanité, etc., etc. Mm-hmm. Mais la communauté indienne a une place prépondérante dans le développement, dans le patrimoine culturel de la Guadeloupe et de la Martinique. On ne peut pas le nier. Et une chose qui est claire, c'est que ils n'ont pas oublié leur culture, leurs racines. Donc oui, on va s'intégrer à la société guadeloupéenne martiniquaise, on va parler le créole, on va par exemple jouer le calrouka, etc. Mais en même temps, quand ce sont des fêtes liées à la culture indienne, on va valoriser tout ça. Mm-hmm. Donc ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose à prendre en considération. Et une chose qui est très simple aussi, on parle beaucoup au niveau de l'identité, de la place de la culture, etc. Mais il y a aussi les monuments, mm-hmm. les temples hindous, mm-hmm. qui font partie de notre paysage. On n'imagine pas, mais ça aussi, ça façonne, mine de rien, notre identité. Même si on n'a forcément pas de lien direct avec un parent issu de l'Inde ou autre, mais on s'entend que ça aussi, ça permet aussi la construction de l'identité collective d'un territoire.
Bien sûr.
Ouais. À cela, moi, j'ajouterais la nourriture.
Voilà.
Oui. La nourriture, parce que, écoute, apparemment, le plat national chez nous, c'est le colombo. Tu vas me dire d'où sort le colombo. Déjà, d'où sort le nom colombo. Puis le fait d'utiliser du curry, c'est hyper indien quand même, comme tradition. Donc, en fait, quand tu analyses tout ça, ça fait du sens, en fait. Tu dis, ben oui, comme si, comme tu dis, Michel, l'indianité est quand même imprégnée dans la culture guadeloupéenne, martiniquaise, mais même caribéenne, moi, je dirais. Oui, on doit reconnaître ce qu'ils ont apporté aussi, parce que c'était pas juste une main d'œuvre, c'était pas juste des travailleurs, c'est des personnes qui sont venues, en fait, c'est des personnes avec un bagage, c'est des personnes avec une culture, des traditions qui sont venues s'installer sur des territoires. Donc ils ont amené tout ça avec eux aussi, et on peut pas nier que ils ont eu une très grande influence sur notre culture. Et clairement, comme on dit, enfin, tu sais, moi, quand j'analyse le Colombo, je me dis, quand j'ai appris qu'il y avait une ville en Inde qui s'appelait Colombo, je me suis dit, mais je comprends pas, mais pourquoi nous ça s'appelle Colombo? Je sais pas, je comprenais pas. Et en fait, honnêtement, je comprenais pas trop c'était quoi le rapport, genre d'où le curry il est arrivé. Comme le curry, c'est, je sais pas, tu vois, genre d'où est-ce que ça arrivait, et puis pourquoi c'est devenu notre plat, machin. Mais en fait, finalement, bah, je pense, il faudrait qu'on fasse un historique du Colombo. Mais moi, je pense que clairement, ça vient de la culture indienne, tu vois. Enfin, ça ferait du sens.
C'est ça. Mais tu sais, même au niveau politique, tu vois qu'ils ont quand même de plus en plus une certaine visibilité. Je pense, par exemple, chez moi, en Guadeloupe, il y avait le maire de Saint-François, Ernest Moutoussamy. Si je ne me trompe pas, donc il était maire de Saint-François pendant un certain nombre d'années. Dites-moi si je me trompe, mais Serge Letchimy n'a pas des origines indiennes par hasard, non?
Faudrait vérifier, mais aussi, honnêtement, c'est fort probable, hein, c'est possible.
Hein. Il me semble, oui. Ben, il se faisait, on l'appelait Couli, manger chien aussi, bon, ou Chapé Couli.
Ah, ben voilà. Et ben voilà. Donc, tu vois, il y a ça aussi, cet aspect-là, hormis l'aspect culturel, économique, il y a quand même aussi le côté politique à prendre en considération. Donc, ça aussi, ce sont quand même des éléments à souligner, donc qui, à mon sens, permet véritablement de démontrer que la communauté indo-guadeloupéenne, indo-martiniquaise a toute sa place dans le patrimoine économique, politique et culturel de nos deux territoires et de la Caraïbe en général.
Mais moi, je suis d'accord avec toi à 100%. Et surtout aussi quand Adeline dit ben, il y a quand même une considération à avoir dans ben, l'impact qu'ils ont eu dans nos sociétés. Mais ça me fait juste penser que quand on parle en termes de valeurs universelles, universalisme, comme le promeut la France en ce moment, qui est pour moi juste un rejeton de la colonisation quand on parle d'universalisme, puisqu'au final, on peut pas tous être pareil, mais ça nous appelle, et puis ça fait que, désolé, je vais reprendre, mais l'universalisme ne fait que abolir toutes les questions de communauté, de reconnaître l'impact qu'une autre communauté peut avoir sur une autre, et puis comment elle influence la société. Mais quand on parle d'universalisme, on peut plus faire ce travail-là que justement de reconnaître l'impact que certaines communautés ont dans la société. Mm-hmm. Donc c'est pour ça aussi que c'est toutes ces choses qui sont entremêlées qui font que ben la machine coloniale est vraiment forte là pour qui nous emmène justement à l'organisation qu'on a actuellement dans nos territoires.
Mais en tout cas, merci pour cette conversation qui était super enrichissante et qui me donne envie d'en savoir encore plus sur l'histoire de la migration indienne aux Antilles. Alors, le prochain épisode portera sur la départementalisation. Ouh là là ! Donc, gros sujet. Et ce sera, pour votre information, le dernier épisode de notre première partie, donc les causes. À la suite de cela, on va passer aux conséquences. Donc, on a hâte vraiment d'enregistrer cet épisode parce que je pense que ça a été un gros shift, la départementalisation pour nos territoires. Parce que aussi, suite à ça, c'est là que les migrations de masse, je dirais même les exils de masse, ont commencé. Donc, je pense qu'on aura vraiment beaucoup de choses à dire. En attendant, prenez soin de vous et on se dit à bientôt.
À bientôt.
À bientôt.
Vous venez d'écouter Identitèse, un concept pensé, recherché et réalisé par Michel Martineau, Jordi Bellance et Adeline Louison. Au montage, Adeline Louison. Et musique libre de droit par Olive Musique.